27 right, wind 250 degrees, 1 kilo.
Clear.
Green. Descend.
Salut à toi et bienvenue sur cet épisode hors série de l'expérience Shiban. Au mois d'octobre, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia dans le cadre de la Fête de la Science pour parler de l'aviation de demain. Et durant ces deux journées, Tom et moi-même, Seb, avons tenu un plateau radio pour interviewer en live 6 personnes qui réfléchissent et travaillent à l'aéronautique du futur. Comme c'était le cas la dernière fois que nous sommes allés à Aéroscopia pour faire des interviews en live, nous nous sommes répartis les discussions avec Tom, tu entendras donc deux voix différentes, la mienne et celle de Tom, pour animer ces épisodes. Ces formats plus courts et un peu différents seront diffusés les 15 de chaque mois, entre janvier et juin 2023. Pour les premiers du mois, on reste sur le format classique. Petit disclaimer, nous ne disposons pas, dans l'équipe de l'expérience Shiban, des connaissances et des compétences techniques pour juger de la faisabilité de ce dont nous parlent nos invités. L'idée est de transmettre les messages de personnes qui façonnent le futur de l'industrie et de laisser la parole à ces experts dans leur domaine. Nous ne prenons donc pas la responsabilité de l'exactitude technique des informations transmises, notamment sur les sujets les plus poussés et encore relativement incertains à ce jour, comme celui des avions à hydrogène. Allez, c'est parti pour cet épisode de l'expérience Shiban enregistré à Aéroscopia lors de la Fête de la Science au mois d'octobre 2022.
Donc bonjour à tous, bienvenue, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de l'expérience Shiban. Et on est donc avec Yves Gourina aujourd'hui, bonjour Yves.
Bonjour Thomas.
Bienvenue à toi, merci d'avoir accepté notre invitation. Yves, donc tu es professeur de physique des structures à SupAéro et directeur de recherche à l'Institut Clément Ader. Aujourd'hui, on va donc resserrer la focale sur un projet qui te tient particulièrement à cœur et qui t'occupe beaucoup en ce moment, que tu es venu présenter à Aéroscopia pour la Fête de la Science, c'est celui de l'aile volante à hydrogène. Alors avant de plonger donc dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, moi j'aimerais que tu nous parles de ton parcours en quelques mots, parce qu'on sait qu'il est très dense. Tu as travaillé donc sur de nombreux projets, occupé de multiples fonctions. Est-ce que tu peux nous en parler?
Merci d'abord à Aéroscopia de nous inviter à partager la science dans ce temple de l'aéronautique. Alors effectivement, j'ai presque 40 ans de carrière, en commençant d'abord chez un avionneur, qui est un grand avionneur qui est à Toulouse. Vous imaginez bien lequel. Et donc, je suis un des papas de l'A340. Voilà, j'ai vu qu'il y a un A340, d'ailleurs, sur le tarmac. C'est évidemment le plus bel avion du monde. Donc, je suis un des papas de l'A340, ceci pendant 7 ans. Donc, j'ai vécu avec Alain Garcia la certification complète de l'A340 pendant 7 ans sur les structures composites. Ensuite, pendant 10 ans, j'étais dans l'espace. Alors, sur les lanceurs et sur les vols habités. Grâce au général Pierre Saint-Est qui m'a appelé à monter une formation, une filière de recherche et développement espace à l'ENSICA, qui est une école qui a été absorbée maintenant par SupAéro. Et depuis 2003, en effet, c'est ma troisième vie. Je suis professeur de physique des structures à SupAéro. Alors la physique des structures, ben voilà, je l'ai entre les mains, puisque je suis pour le CNRS le spécialiste du calcul des coques en interaction avec les fluides. Alors les coques sont des structures très intéressantes, c'est des espaces non euclidiens qui vibrent, qui bougent, qui sont régis par les quatre principes de la thermodynamique. Et à ce titre, j'ai deux applications principales. Le réservoir cryogénique pour le lanceur et l'avion du futur d'un côté, et la cellule vivante de l'autre côté, parce que les deux sont régis par les principes de la thermodynamique. Et c'est pour ça que j'enseigne à SupAéro la physique de la cryogénie, et à l'Université Paul Sabatier et à Dallas, la biophysique. Voilà.
Alors, on va revenir sur le projet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de l'aile volante à hydrogène. Alors, pourquoi l'aile volante à hydrogène? En fait, c'est la conclusion d'une réflexion que toi et d'autres scientifiques...
20 ans de réflexion.
Scientifiques et avionneurs donc, ont mené sur la forme idéale que devrait prendre l'avion commercial de demain. Et la réponse, donc tu vas nous l'expliquer pourquoi, c'est l'aile volante propulsée par un moteur à hydrogène. Alors, on peut peut-être commencer par le mode de propulsion. Pour toi, l'avion de demain donc, ne doit produire aucune émission. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions, c'est l'hydrogène.
Bien sûr. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça dépend de quel avion on parle. Si on parle d'un avion à quatre places, comme celui-ci, l'électricité, la pile à combustible, ça peut être une très bonne solution. Mais si on parle d'un avion comme la 300 sous lequel nous sommes, c'est-à-dire pour emmener des centaines de passagers et à l'autre bout de la planète, si on voulait mettre des batteries ou des piles à combustible ou des moteurs électriques dans un avion comme celui-là, le bâtiment dans lequel nous sommes n'y suffirait pas. C'est-à-dire qu'on ne fabriquerait plus un avion mais un sous-marin. On ne décollerait pas. C'est une question de taille, de similitude. En fait, c'est parce que, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, un éléphant, ça n'est pas une souris qu'on a agrandie. C'est un autre animal. Eh bien, un gros avion, ça n'est pas un petit avion qu'on a agrandi. C'est-à-dire que si je prends un Cessna et un A380, vous avez bien remarqué qu'il y a des différences énormes. Et ces différences, elles se déclinent à plein de choses. Alors, tu m'as interrogé sur la propulsion. Effectivement, la propulsion électrique sur un très gros avion, ça devient très compliqué. Je vais citer quelques exemples. Les câblages qu'il faudrait, les ampérages, les moteurs électriques, les hélices, tout un tas de choses dans lesquelles les puissances se comptent alors en centaines, en milliers de mégawatts, eh bien, on ne passerait plus, sauf à faire une centrale nucléaire qui vole, ce qui serait relativement dangereux. Et donc, la solution, elle est donnée effectivement par le couple hydrogène liquide, qu'on connaît bien dans le spatial depuis très longtemps, et la propulsion à l'hydrogène qui fonctionne très bien sur un turboréacteur. Car, contrairement à une idée reçue, General Electric fait tourner un CF6, 22 tonnes de poussée, au banc, depuis 20 ans, à l'hydrogène. On sait exactement ce qu'il faut faire. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne en laboratoire, ça fonctionne au banc, et il va falloir l'avionner, c'est-à-dire le certifier, le rendre compatible de la performance, la sécurité, l'environnementabilité, compatible avec les compagnies aériennes. Voilà. Et ça, c'est 10 ans de travail dans lequel nous sommes lancés.
On va parler justement de tous ces enjeux, notamment de certification.
Désolé, je suis un peu bavard.
Et autres. Hein, c'est très bien, c'est très bien, c'est passionnant. Donc, on a parlé du mode de propulsion. Maintenant, si on parle de la structure, pourquoi est-ce que la solution, en fait, aile volante, la formule aile volante, est la solution qui se dessine comme la solution idéale?
Alors, tout simplement à cause d'un problème de volume. C'est que l'hydrogène a beaucoup de qualités et à un défaut. Alors les qualités, c'est l'énergie, c'est vraiment la performance et le fait que le seul produit de combustion, c'est de la vapeur d'eau, ce qui est quand même remarquable. Le défaut, c'est qu'il est très froid et très léger. C'est-à-dire que, pour faire simple, à quantité d'énergie égale par rapport au kérosène, il faut 4 fois plus de volume. Donc si dans cet A300, on se contentait de mettre de l'hydrogène à la place du kérosène, on ferait Paris-Toulouse et on s'arrêterait là. Ce qui est d'ailleurs pas forcément l'avenir de l'aviation transport de masse, parce que Paris-Toulouse, on le fait très bien en TGV aussi. Donc, si on veut pérenniser l'aviation, il faut aller beaucoup plus loin et trouver des formules qui permettent d'embarquer des volumes 4-5 fois plus importants que ce qu'on a. Oui, parce que les réservoirs seront plus épais également pour des questions d'isolation. 4 à 5 fois plus importants que ce qu'on a dans l'avion d'aujourd'hui. Et la solution qui date du 19e siècle, avec un fuselage, un empennage, une voilure, n'offre pas la place, sauf à mélanger les passagers et l'hydrogène. Mais là, je ne monte pas à bord, hein, personnellement. Et non. Et donc, il faut avoir un volume suffisant pour donner une idée, 1600 m3. Et la seule façon de faire, c'est d'avoir une voilure énorme qui devient le fuselage. Alors, on gagne deux choses. On gagne le volume pour l'hydrogène. On gagne aussi le volume pour les passagers. Parce que toute la partie centrale devient un véritable bâtiment. Au sens bâtiment comme un bateau. On dit d'ailleurs un navire, on dit parfois quel magnifique bâtiment. Voilà. Eh bien, on va réinventer une nouvelle façon de voler, comme dans un bateau, où au lieu d'attendre en allant du point A au point B que ça passe, eh bien, on va vivre dans l'avion. Et on va boire le café, alors non pas le café amené à la place, mais en allant dans un coin café, comme dans le train finalement, comme dans l'Orient Express, où on va aller. Dans un coin, il y aura de la musique. On va peut-être faire un peu de shopping. D'ailleurs, à ce titre, la visite de l'A380 que nous avons ici à Aeroscopia sur le tarmac est très intéressante. Il y a un petit centre commercial dedans. Donc voilà, c'est ça l'idée de l'aile volante.
Un fuselage traditionnel donc, permet de séparer les fonctions. On a transporter, tracter, porter, contrôler. Là, dans une aile volante, tout est rassemblé.
Tout est intégré.
Qu'est-ce que ça engendre comme contrainte pour l'ingénieur dans la conception de cet aéronef ? Et surtout, ma question plus simplement, c'est est-ce qu'on est capable de concevoir un tel aéronef aujourd'hui, selon toi ?
Alors, oui, on est capable de le concevoir, mais pour le certifier, il faut encore 10 ans. Pourquoi ? Parce que la séparation des fonctions a aussi un avantage organisationnel. C'est-à-dire qu'on peut donner des morceaux de l'avion, des work packages, à chaque partenaire. On ne pourra plus travailler séparément. Ça, et justement, c'est une contrainte qui, à mon avis, est biologiquement positive. C'est-à-dire qu'elle va obliger les avionneurs, non pas à avoir une vision morcelée des choses, mais à avoir une vision véritablement architecturale. Je vais aller beaucoup plus loin. Je suis convaincu que cette aile volante, elle se fera en coopération à l'échelle mondiale. Un peu comme la Station Spatiale Internationale. La Station Spatiale Internationale est dans l'histoire, aujourd'hui, le projet qui a impliqué le plus de nations. Dans l'histoire aérospatiale. Eh bien, je suis convaincu que l'aile volante, un de ses mérites, ce sera justement de fédérer. Alors, j'oserais pas citer le nom des avionneurs, mais pourquoi pas ? On pourrait très bien imaginer de prendre les deux premières lettres de l'alphabet, A et B, qui pourraient travailler ensemble sur ce genre de projet. Et en plus, on va être obligé de faire évoluer la réglementation, car la réglementation n'est pas encore prête. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans de travail.
Alors une autre question aussi qui me vient à l'esprit, toujours sur le plan de la conception. Donc on a parlé vraiment de la faisabilité du projet. Et au niveau des matériaux, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ce type d'aéronef ?
Eh bien, c'est exactement comme pour l'architecture. Les matériaux, ils existent aujourd'hui séparément. Si je prends par exemple le réservoir extérieur de la navette spatiale, il adresse deux fonctions principalement. La fonction structurale, qui est donnée par une enveloppe en aluminium-lithium avec des cadres et des lisses comme un fuselage traditionnel. Et puis une fonction d'isolation thermique, qui est adressée par une mousse en polyuréthane orange, qui donne la couleur orange d'ailleurs au réservoir qu'on voit à l'extérieur. Et ce sont deux fonctions séparées. Dans l'aile volante, il va falloir qu'on intègre tout ça dans un, on va appeler ça un métamatériau, qui va intégrer ces deux fonctions-là, mais encore bien d'autres. La tenue en fatigue, la durée de vie, 100 000 heures de vol. La navette spatiale, 20 minutes. Et oui, et donc il va falloir la tenue en fatigue, la fugacité, car l'hydrogène a une tendance à passer à travers les murs, à travers les parois. Et donc, le passe-muraille, c'était un film avec Bourville, hein, où on voyait, oui, on traversait les murs, c'était une histoire. Oui, c'était avec Bourville, si. Et donc, l'hydrogène, c'est un passe-muraille. Et les matériaux contemporains, enfin, arrivent à retenir l'hydrogène, mais il va falloir mettre au point les dernières technologies. Enfin, j'ajoute qu'il va falloir avoir une structure qui dynamiquement tienne la route. En ce sens qu'il peut y avoir des petits endommagements sur un lanceur, par exemple un caillou qui vient impacter des choses comme ça. Sur un avion, il va falloir que toutes les cicatrices, je dis bien les cicatrices qui vont faire la vie de l'avion, s'auto-réparent et arrivent à vivre pendant les 100 000 heures et les 20 000 et les 20 années pendant laquelle il va être opérationnel. 10 ans de travail également pour qu'il soit recyclable. Parce qu'aujourd'hui, on va certifier l'avion pour sa carte grise à sa naissance, pour ses 20 années, 100 000 heures de vol, et ensuite pour sa retraite. Il va y avoir le problème de la retraite des avions. Aujourd'hui, la pire des solutions, on la voit dans les cimetières, c'est qu'on les entrepose dans un désert et vous avez 3 000 avions qui dorment et qui ne servent à rien. Première idée, c'est de recycler les matériaux. Vu la complexité des matériaux qu'on va avoir, ça va être très, très complexe. L'idée meilleure, ce sera de recycler les structures et que, par exemple, dans 50 ans, ce bâtiment dans lequel nous sommes, ce sera peut-être une aile volante à la retraite. C'est-à-dire qu'on va récupérer cette structure qui a été étudiée thermiquement, thermodynamiquement pour tenir ses 100 000 heures de vol. On va la certifier pour 250 ans de vie sur Terre. Sa retraite paisible dans laquelle elle va vivre une deuxième vie.
Ça, effectivement, c'est aussi un aspect très intéressant de ce projet. Pour revenir à cet avion en particulier, est-ce que tu pourrais nous en faire le portrait robot finalement ? Ça ressemblerait à quoi ?
Oui.
L'aile volante. Alors, à hydrogène.
Le pré-portrait existe déjà par une toute petite institution peu connue qui s'appelle la NASA et Northrop. Alors, c'est une aile épaisse, entre 100 et 120 mètres d'envergure, avec 800 à 1200 places au milieu, aménagée avec, on ne sait pas encore si c'est deux ou trois niveaux,
Bon.
Ce sera à deux niveaux, il y aura 800 places. Si c'est trois niveaux, il y en aura 900 à 1000, quelque chose comme ça, qui sera aménagé un petit peu comme ici, c'est-à-dire de manière modulaire, où effectivement, au décollage, à l'atterrissage, on va pouvoir mettre des sièges parce qu'il faut mettre sa ceinture au décollage, à l'atterrissage. Mais une fois produit le décollage, eh bien, on enlève les sièges dans le plancher, les sièges rétractables, et on a littéralement une piste de danse. Et puis, comme on va y passer, ah oui, on va voler moins vite et moins haut, pour des raisons environnementales. Car nous avons un devoir d'exemplarité, on va totalement décarboner l'aviation et la dégager de l'effet de serre. Et pour ça, venez à ma conférence, eh bien, il va falloir transformer les traînées de condensation aujourd'hui qui sont des cirrus en des cumulus. Et pour ça, il faut voler plus bas et moins vite. Ce qui veut dire que pour aller en Australie, ce n'est plus 25 heures qu'il faudra, c'est 45 ou 50. Et donc, il va falloir passer deux jours dans l'avion à faire ce que nous sommes en train de faire là, c'est-à-dire discuter, c'est-à-dire vivre, c'est-à-dire aller boire un café, c'est-à-dire aller au théâtre, des choses comme ça, voyez. Et donc, l'idée, c'est que l'espace à l'intérieur de la cabine soit modulaire. Et puis, dans la partie extérieure, nous avons les réservoirs, 1600 m3 d'hydrogène, donc en deux grands réservoirs, voilà, qui sont là le plus loin possible des passagers et qui seront séparés par la propulsion et les trains d'atterrissage et j'allais dire toute la partie énergie électrique et hydraulique de l'avion. Il y aura probablement encore un petit peu d'hydraulique quand même. Et oui, il y a des choses qu'on ne peut pas tout remplacer d'un coup. Il y aura donc une baie technique entre le réservoir et l'habitacle, le tout dans une aile qui fera 8 mètres d'épaisseur, 30 mètres de corde et 120 mètres d'envergure.
Donc des vols qui seront plus longs. Si tu devais nous faire rêver là comme ça, est-ce que tu pourrais nous imaginer, nous décrire un Paris-New York en aile volante, ça ressemblerait à quoi?
Alors déjà, l'aile est garée par des robots qui vont remorquer l'avion. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des émissions de monoxyde de carbone sont données par le roulage. Donc, ce sont des robots qui vont faire rouler l'avion et qui vont le parquer à sa place, comme en épi, vous voyez, faire des créneaux. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Quand vous arrivez avec un paquebot dans un port, il y a le pilote du port qui vient chercher le paquebot. Bon, et bien là, le pilote du port, ce sera des drones ou des robots qui viendront remorquer l'avion et le mettre à sa place. Ensuite, il y a des réservoirs d'hydrogène sous l'avion parce qu'il faut vider et remplir l'avion à chaque vol. Donc, c'est très simple. Nos amis des écoles des mines sont spécialistes du stockage cryogénique sous le sol. Donc, à partir de là, chaque avion est muni d'un réservoir enterré qui permet de le vider et de le remplir à toute vitesse, comme on fait sur les lanceurs. C'est quelque chose qui est familier dans le monde du spatial. Mais le transfert du monde du spatial au monde de l'aéronautique va prendre 10 ans. Donc, on embarque, on fait le plein une fois qu'on est embarqué. 10 minutes, à peu près 10 minutes, ce qui n'est pas long, hein, parce qu'aujourd'hui, remarquez, hein, ce qui prend du temps, c'est de remplir la cabine, de mettre les bagages dans les racks, etc., etc. Donc, voilà. Puis après, on décolle. Alors, on décolle pendant le premier quart d'heure. On est assis bien sagement, comme tout le monde. Et puis, au bout d'un quart d'heure, Le chef de cabine nous dit, bah écoutez, voilà, ça y est, vous pouvez détacher votre ceinture et vous pouvez rétracter votre siège si vous le souhaitez. Et donc, on va reconfigurer l'installation et on va commencer à faire ce qu'on fait dans le train, où on discute avec les gens, où on a le droit d'aller au bar, d'aller vivre. On va vivre. Puis après, va arriver la nuit, parce qu'en deux jours, on a le droit de dormir. Alors, on va peut-être réinventer quelque chose qui s'appelle le hamac. Mais bien sûr, on l'a complètement oublié, mais dans les bateaux, on avait un truc qui s'appelait la banette. Alors bon, on va faire un peu mieux que la banette. Les hamacs guyanais, vous savez, ceux qu'on utilise dans la forêt, là, je peux vous dire, c'est extrêmement confortable pour dormir et ça ne pèse rien. Il suffit d'avoir deux points d'accrochage structuraux, qui n'est rien du tout dans un avion. Donc on va inventer ce genre de choses et donc on va réinventer une nouvelle façon de vivre le vol. Et puis après, quand on aura volé 45 heures, eh bien, on nous annoncera, il faut ressortir les sièges, asseyez-vous, et on va se poser. C'est un petit peu comme le début et la fin d'une séance de cinéma, en fin de compte. Voilà.
Qui travaille sur ce projet aujourd'hui là?
Tout le monde.
Tout le monde. C'est-à-dire?
Alors, tout le monde travaille séparément, c'est-à-dire que sur la propulsion, sur l'isolation, sur l'aménagement intérieur, sur les trains d'atterrissage, sur la réglementation. Point très important, la FAA est sur le sujet parce qu'il va falloir que la réglementation existe, etc. etc. Il y a plein de gens qui travaillent. Ce qui va prendre 10 ans, c'est d'assembler les pièces du puzzle.
Voilà, c'est ça.
Et aujourd'hui, les pièces se fabriquent séparément, ce qui est très bien.
Séparément sur des projets séparés ?
Oui. Alors, on n'a pas encore opté. Là, je vous donne le portrait robot, mais c'est clair qu'il n'est pas encore complètement figé. Si j'avais la boule de cristal, je pourrais le dire. Ce que je peux dire, c'est qu'en vertu des lois de la thermodynamique, que je connais bien, eh bien, on ne peut pas converger vers quelque chose de très différent. Par exemple, on ne peut pas converger vers une voilure d'épaisseur et de taille standard parce que le volume est tout simplement trop petit. On peut parfois s'arranger avec les lois administratives, on ne peut pas s'arranger avec les lois de la physique. Ça ne marche pas.
Donc toi, Super Aero, tu travailles avec Airbus, c'est ça,
sur ce projet ? Mais on a des gens d'Airbus. Alors attends, j'ai deux personnes d'Airbus qui sont détachées sur la peau de l'avion, c'est-à-dire sur les matériaux qu'on va utiliser sur la peau de l'avion. Voilà, un qui travaille plutôt sur la partie métallique, l'autre sur la partie composite. Mais ce sont des gens qui sont là pour nous aider à monter ces work packages les uns à côté des autres. Puis après, il faut qu'il y ait des architectes, qu'il y ait la vision. Et c'est nous, là, en tant que scientifiques, on intervient. Parce qu'on a, à cause de notre constante de temps en science, on a le recul.
On en est où du processus de développement de cette aile volante ? Est-ce que il y a plusieurs prototypes qui sont en cours d'élaboration ou il y en a un très sérieux sur lequel vous êtes en train de travailler
plus
que les autres ?
Alors oui, il y a la forme de référence de la NASA. Mais la NASA n'est pas un avionneur. La NASA est une agence. Alors, nous en sommes exactement au point où on en était sur l'avion à réaction en 1945. Voilà. En 1945, il y avait un Anglais qui s'appelait Frank Whittle qui faisait tourner un moteur à réaction au banc, qui tournait sur un avion militaire qui s'appelait le Gloster Meteor. Voilà. Et ça fonctionnait très bien en laboratoire et sur des avions militaires. Eh bien, tous les éléments de l'aile volante, aujourd'hui, ils marchent en laboratoire et sur des avions militaires. Car il y a une aile volante opérationnelle qui s'appelle le Northrop B2 Spirit, qui est un avion opérationnel, qui a l'envergure d'un 747, qui fonctionne au kérosène. Hein. Il ne fonctionne pas encore à l'hydrogène. Mais je ne révèle pas un scoop en disant que Airbus va bientôt, dans le ciel de Toulouse, faire voler un réacteur à hydrogène. On le sait très bien, c'est public. C'est quelque chose de public. Donc, les gens avancent dans le domaine civil, work package par work package. Dans le domaine militaire, c'est déjà intégré à l'hydrogène près. Mais ce n'est pas si compliqué que ça, de rajouter l'hydrogène. Ce qui est compliqué, ce n'est pas l'hydrogène, c'est la certification. Et là, il faut que j'en dise un mot. Parce que la certification, c'est ce qui nous permet de monter dans l'avion sans réfléchir. C'est-à-dire d'emmener nos enfants dans l'avion avec un risque vital qui est compatible avec ce que nous risquons en ce moment-là. Car j'ai le regret de te faire savoir que dans l'heure que nous passons ensemble, nous avons à peu près 1/10 millionième de chance d'y laisser notre peau. Alors je vais essayer de donner toutes les causes qui nous menacent. Les Gaulois avaient déjà peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ça s'appelle la météorite. Le risque météoritique pendant cette heure que nous passons, là, il est entre 10-11 et 10-12. C'est-à-dire en gros 1 000 milliardième de chance de nous faire tuer. Mais ça n'est pas zéro. Et le bâtiment n'est pas certifié à la météorite. Il n'y a aucun bâtiment dans le monde qui est certifié à la météorite. Et c'est normal. Ensuite, il y a le tremblement de terre. Il y a le tsunami. À Toulouse, on peut imaginer qu'un tsunami vienne submerger Toulouse. Tout est une question de probabilité. Et puis après, il y a toutes les autres catastrophes qui, chez moi, sont beaucoup plus importantes que chez toi. L'AVC, l'arrêt cardiaque et tout ce qui peut nous arriver. Tout simplement parce que du seul fait que nous sommes nés, nous allons mourir un jour. Tout est une question de probabilité par heure. Et donc, il y a une probabilité acceptable qui est la probabilité biologique. Cette probabilité naturelle est entre 10-6 et 10-7. Quand certifier un avion, c'est garantir que l'avion va être l'endroit le plus sûr du monde. C'est-à-dire qu'en montant dans l'avion, vous ne courez pas plus de risques que dans cette salle. Alors comment c'est possible ça ? Eh bien, je vais vous dire. C'est que vous ajoutez des risques qui sont dus à l'avion et vous soustrayez des risques qui sont dus au fait qu'en étant dans l'avion, vous n'êtes plus en dehors de l'avion, si je me fais comprendre. Quand vous êtes en vol, le risque de tsunami, il n'est pas zéro, toujours pas zéro, mais il est d'un ordre de grandeur très inférieur à ce que nous avons ici, sur le plancher des vaches. Il y a tout un tas de risques qui sont soustraits. Et le but du jeu de la réglementation et de la certification, c'est de faire en sorte, vous allez me comprendre, je ne vais pas parler très bien en français, mais c'est que les risques que vous ajoutez sont inférieurs aux risques que vous soustrayez parce que vous êtes dans l'avion. Vous m'avez compris ? Et donc, quand vous êtes dans l'avion, vous êtes comme ici. Et d'ailleurs, on est en plein dans l'aile volante, là, puisque l'aile volante va nous nous prolonger notre vie terrestre, tout simplement. Voilà.
On comprend bien qu'on est au tournant d'une évolution considérable, un peu comme à l'époque des premiers avions à réaction, t'en parlais tout à l'heure.
Mais c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'aéronautique. Moi, si j'osais, je dirais que j'oserais pas, mais que les frères Wright, la première fois qu'ils ont utilisé un moteur à essence, c'était une révolution. L'avion de Clément Ader, bon, il volait pas très bien, mais il était à vapeur avec de l'alcool à brûler. Eh bien, ils ont utilisé un nouveau carburant qui s'appelait l'essence et qui leur faisait une trouille terrible. Leur réservoir faisait 2 litres. Pourquoi ? Mais parce qu'ils avaient peur. Vous savez, l'essence, là, si à la place de mon café, je mets de l'essence, il vaut mieux pas fumer à côté. Hein. Il vaut mieux même pas mettre un téléphone portable parce que ça va prendre feu. Donc l'essence, c'est une belle saloperie. Je suis désolé de le dire. Eh bien, les frères Wright en étaient en 1903, là où nous en sommes pour l'hydrogène, aujourd'hui. Frank Whittle en était en 1945 avec le kérosène, car oui, la réaction, c'était un nouveau carburant aussi, c'était le kérosène. Il fallait inventer les circuits de distribution, les réservoirs de kérosène, les wagons, les camions-citernes, tout le tremblement, si vous voulez. Eh bien, en 1945, ils en étaient au même point que là où on en est avec l'hydrogène. Ben, si on fait le calcul, si vous regardez bien, les premiers avions vraiment à essence qui ont été opérés, c'est triste à dire, mais c'est à la guerre de 14. Eh bien, c'est à peu près 10 ans après les frères Wright, 1903, les frères Wright. Eh bien, les premiers avions civils à réaction qui ont été opérés, c'est à peu près en 1955. Cette année-là, quand même, le Boeing 707, la Caravelle, le Comet. Et 3. Ça marche souvent par 3, d'ailleurs. Hein. Et donc, oui, il y a des raisons à ça. Et donc, je pense qu'on en est aujourd'hui avec l'hydrogène. On en était en 1945 avec le kérosène. Voilà.
Merci beaucoup Yves pour cette passionnante interview. Je me tourne vers le public qui nous a rejoint nombreux. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions à poser à Yves voilà, sur l'aile volante à hydrogène ou sur d'autres projets qui te concernent?
Alors ma question c'est comment est-ce qu'on fait pour pas être malade par exemple dans une aile à hydrogène, dans une aile volante pardon, hydrogène ou pas d'ailleurs, quand on voit pas forcément l'extérieur, quand on est au bar, dans une salle de danse.
Alors il y a deux questions là-dedans, il y a la question psychologique visuelle et là c'est le futuroscope qui va nous sauver. C'est la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il va falloir, et c'est vrai aussi pour l'évacuation au sol, il va falloir trouver des moyens nouveaux qu'il va falloir certifier. Donc, ce qu'on pense faire, c'est créer une réalité augmentée à l'intérieur. C'est-à-dire véritablement avoir la visibilité extérieure par des écrans 3D à cristaux liquides sur les parois. En faisant attention de ne pas donner le vertige aux gens, d'ailleurs. Parce que si on voit trop l'extérieur... Oui. Dans les dirigeables, c'était un des problèmes. Hein. Donc, ça c'est le... Comment dirais-je ? C'est la première question. Mais il y a une deuxième question, qui est celle de la mécanique. Comme on va voler plus bas, on va être dans une atmosphère plus turbulente. Alors, il faut savoir que l'aile volante est instable. Elle n'a plus d'empennage, elle est instable. Et donc, elle sera contrôlée par les commandes de vol électriques. Comme Concorde, d'ailleurs, Concorde est le premier avion commande analogique, mais électrique, qui a été stabilisé en tangage par les commandes de vol électriques. Et on va utiliser ces commandes de vol pour faire du contrôle prédictif généralisé en anticipation de la turbulence. Alors, un tout petit peu de technique. On fait ça aujourd'hui sur le Charles de Gaulle. La houle qui va perturber le Charles de Gaulle est anticipé en commandant l'ensemble des gouvernails, mais aussi des girondines hein, à bord du bateau pour compenser la houle. Eh bien, sur l'aile volante, il y aura un lidar. Alors un lidar, c'est un laser qui regarde devant, 30 km devant, qui regarde l'état atmosphérique de l'atmosphère devant et qui compense à l'avance la turbulence. Alors c'est une technologie qui a été mise au point pour les grands télescopes terrestres. J'ai eu un doctorant sur le sujet. Dans les 25 doctorants que j'ai encadrés pendant ma carrière, il y en avait un sur le contrôle actif dynamique des miroirs de télescopes où on envoie un rayon laser dans l'atmosphère et on compense la turbulence atmosphérique directement sur le miroir. Et bien cette technologie-là va être utilisée sur l'aile volante et j'ai même dit aux avionneurs que le critère, ce sera qu'on puisse jouer au mini-golf dans l'avion. C'est-à-dire que si l'avion est suffisamment stabilisé, là, ça aura du sens de jouer avec une balle sur le sol qui ne sera pas trop perturbée pour que, vous voyez, ce que tout le monde a joué au mini-golf. Voilà, les enfants adorent ça. Et donc, l'idée, c'est ça. Pour ne pas rendre les gens malades, visuellement, la réalité augmentée et mécaniquement, le contrôle prédictif généralisé sur les commandes de vol électriques. C'est encore des technologies qui marchent au laboratoire ou qui marchent sur les télescopes et qu'il va falloir avionner. c'est que là, alors il y a des expériences en laboratoire absolument extraordinaires, où en gros on fait rouler un robot sur une tôle ondulée, et à bord du robot, ça ne bouge pas du tout. On a par exemple un réservoir, un aquarium avec des poissons dedans, et la surface de l'eau reste une surface d'huile, parce que le contrôle prédictif généralisé, ça marche, parce qu'il est prédictif, c'est-à-dire qu'il anticipe l'effet dynamique de la turbulence sur l'avion. Alors, on a mis ça au point, pour être honnête, sur les télescopes et pour les dirigeables aussi. Parce que le dirigeable ne sera certifiable qu'avec le contrôle prédictif généralisé. J'entends par là que tout le monde croit que les dirigeables, le danger, c'est l'hydrogène. Pas du tout. L'hydrogène n'est absolument pas dangereux tant qu'on ne tire pas une balle incendiaire dedans. Effectivement, vous prenez un dirigeable à l'hydrogène, vous tirez une balle incendiaire, mauvaise idée. Mais quand on ne tire pas une balle incendiaire, l'hydrogène n'est pas dangereux. Ce qui a tué tous les dirigeables, c'est la turbulence, justement. Et donc, on est en train actuellement de mettre au point des algorithmes. Alors, en labo, c'est extraordinaire à voir fonctionner. Hein. C'est-à-dire, c'est tout simplement le principe... Alors, je vais vous emmener au cirque. Il faut imaginer un clown sur un monocycle avec une baguette. Sur la baguette, il y a une assiette. Sur l'assiette, il y a un éléphant. Sur l'éléphant, il y a une ballerine. Sur la ballerine, il y a un parapluie. Sur le parapluie, il y a un lapin, etc., etc. Donc, c'est un système qui est terriblement instable. Et le type arrive malgré ça. Voilà. Alors, ces techniques, le contrôle prédictif généralisé, je vais vous dire, ça a été mis au point pour les grands télescopes et pour la récupération des lanceurs. Il y a 10 ans, il y a un nommé Elon Musk qui est venu à Toulouse. On a un grand dirigeant du spatial qui nous a expliqué qu'on ne récupérerait jamais les fusées parce que quand vous posez une fusée à un étage comme ça, c'est terriblement instable. Armstrong, quand il a posé son module lunaire... Oui, oui. Mais parce que vous n'avez pas le LIDAR. Le LIDAR mesure 30 km devant ce qui va vous arriver. Or, à la vitesse où on va, 30 km, vous faites le calcul, ça fait quelques dizaines de secondes. Eh oui, quelques dizaines de secondes. Il va vite quand même. Hein. Mais eh bien, quelques dizaines de secondes sur lesquelles vous allez pouvoir anticiper, calculer. Alors, ça suppose d'avoir de la puissance de calcul à bord, d'avoir la fonction de transfert dynamique de l'avion embarqué. Mais ça, on sait faire. Alors, on le fait déjà sur la 340. Je ne devrais pas le dire, mais... Écoutez, il me cherche, alors il va me trouver. Bon, vous savez, un avion, il a une fréquence de résonance. Il a une fréquence de résonance fondamentale, qui est la fréquence de flexion de la voilure. Sur la 340, c'est 1 Hz, 0,9 à peu près, 0,9 Hz. Donc, un pilote qui voudrait s'amuser avec des ressources à faire entrer l'avion en résonance, il pourrait casser l'avion. Non, parce que le calculateur, il a ce mode, et il filtre, et... Voilà, et il filtre. Attendez, le calculateur le filtre. Alors vous allez me dire, oui, mais 0,9, c'est quand la voilure est pleine. Quand le kérosène va se vider, ça augmente. Oui, sauf que le calculateur n'est pas si bête. Il recalcule les fréquences en fonction de la masse de carburant qui reste. Et donc, quelle que soit la configuration de vol, c'est assez balèze quand même. Le pilote qui voudrait faire entrer l'avion en résonance, il ne peut pas. Il ne peut pas parce que les commandes de vol électriques filtrent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme l'ABS. Sur l'ABS, quelqu'un qui appuierait comme un âne, eh ben, il ne peut pas, parce que le système inhibe. Et donc, le contrôle prédictif généralisé, il faut bien comprendre que c'est une anticipation. Ah oui, c'est assez miraculeux. Tant qu'on ne l'a pas vu fonctionner, on n'imagine pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui est capable d'anticiper la perturbation. Vous voyez ? Et donc, le critère, mais je vous dis honnêtement, ça va être la norme, c'est qu'on pourra jouer au mini-golf dans l'avion. Mieux, pourra mettre une pataugeoire. Ah ben alors là, de toute façon, on ne va pas être les seuls. Il faudra de l'hydrogène en quantité parce qu'on ne sera pas les seuls à voler à l'hydrogène. Alors, j'ai un scoop à vous donner. Air Liquide, qui est une société française, a ouvert il y a 3 mois à peu près une centrale. Elle l'a fait au Canada parce qu'elle n'a pas eu les autorisations en France. Désolé, on a une administration en France. Elle a ouvert en Ontario une centrale de production d'hydrogène entièrement vert. Entièrement vert. C'est-à-dire avec une production électrique. Oui, oui, alors je vais essayer de m'expliquer. Production électrique solaire, bon. Et puis, de l'électrolyse. Alors, il y a 2 types d'électrolyse. Il y a l'électrolyse avec des électrodes. Ça marche bien, mais ça nécessite des métaux, des électrodes. Et puis, Air Liquide a un brevet français, mais qu'on applique au Canada, malheureusement. Un brevet français sur la pile à combustible réversible. Alors, c'est quoi la pile à combustible réversible ? Ça consiste à utiliser un catalyseur, des membranes, à partir de l'eau et de l'électricité, on récupère de l'oxygène et de l'hydrogène. Et cette centrale, elle fonctionne depuis 3 mois et demi au Canada. À partir du moment où on a une source électrique puissante, et là, je suis désolé, mais des sources électriques puissantes, décarbonées, il y en aura. Il y a toutes les énergies vertes. Et puis, excusez-moi, il y a le nucléaire aussi. Il y a le nucléaire qui est complètement décarboné et qu'il va falloir utiliser. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix.
Merci. D'autres questions pour Yves ?
Comment se fait le stockage de l'hydrogène ?
Alors, il y a 3 façons de stocker l'hydrogène. La première façon à laquelle nous sommes habitués dans le spatial, c'est l'hydrogène liquide. Donc, c'est un fluide à moins 252 degrés, 20 Kelvin, et qui a une densité 14 fois plus faible que l'eau, 72 kg au mètre cube. Ça, c'est la façon la plus logique pour des volumes importants. Pour des petits volumes, voilà, vous avez le stockage à 350 ou à 500, ou à 700 bars. C'est ce que BMW utilise actuellement sur ses voitures. Mais sur des volumes importants, c'est très dangereux. Parce que vous imaginez une bouteille de plongée à 700 bars d'un gros volume. Si ça explose, là, vous avez une véritable bombe. Mais heureusement, il y a une solution intermédiaire qui est développée en labo actuellement, qui vient de la métallurgie des poudres. Alors, ce sont les hydrures. Donc, il y a un problème, c'est que ce sont des nanomatériaux. Ce sont des poudres extrêmement fines, comme le régolithe lunaire, qui, si vous voulez, ont des rapports entre la surface et le volume qui sont très avantageux. Donc, sous 3 bars à peu près, vous avez l'hydrogène qui s'absorbe, donc absorbé en surface dans la poudre. Vous réduisez à 2 bars et l'hydrogène est restitué. Ça marche comme une éponge à hydrogène. Et moi, je suis convaincu que pour la voiture du futur, ce sera la solution. Avec le moteur Wankel, car vous ne m'avez pas encore posé la question, mais tout le monde n'aura pas les moyens d'avoir une pile à combustible dans les voitures, parce que ça coûte un peu cher. En particulier à cause des catalyseurs. On va se retrouver avec un problème de métaux rares, par exemple le platine. Et oui, c'est que le platine, c'est pas donné quand même. Bon, donc, tout le monde ne pourra pas avoir une pile à combustible. Il y a un nommé Félix Wankel, qui était ingénieur chez Mercedes dans les années 50, qui a inventé un moteur rotatif à piston, moteur à 4 temps, qui marche très mal avec l'essence et qui marche très bien avec l'hydrogène. Wankel est né 50 ans trop tôt. Et son moteur... Alors, c'est plus compliqué. En réalité, c'était un compresseur qu'il avait inventé, qu'il a transformé en moteur pour l'essence. Au passage, il y a une voiture qui a gagné les 24 heures du Mans avec un moteur Wankel dans les années 70, une Mazda. Je ne sais plus le nom de la voiture, mais dans les années 70. Marche très mal avec l'essence, marche très bien avec l'hydrogène. Donc, le stockage poudre hydrure plus moteur Wankel, je suis convaincu. Et ça, sont des choses qu'on a publiées il y a 2 ans déjà. Mais comme on n'écoute jamais les scientifiques, ça n'est pas connu. Voilà.
Seb, tu avais une question.
Sauf quand on les invite à Aéroscopia.
C'est pour ça qu'on le fait. Moi, je me demandais humainement quelle est l'idée autour de cette machine. C'est-à-dire que tu parlais d'un pilote qui allait, comme les bateaux en fait, les pilotes des bateaux qui le faisaient rentrer dans le port. Là, la même chose pour le garer, un drone peut-être. Il faudra un équipage, j'imagine, pléthorique pour 800 à 1000 personnes. Absolument. Est-ce qu'il y aurait encore des pilotes dans cet avion? Ça serait un drone pour pouvoir anticiper tout ça.
Mais voilà.
Comment est-ce que tu vois ça?
Mais évidemment qu'il y aura des pilotes. Alors après, je ne dis pas qu'il y en aura beaucoup à bord, parce qu'en quelques années, vous l'avez remarqué, depuis les années 50, on est passé de 5 personnes dans le cockpit à 2. Il est possible qu'on passe à 1. J'en suis pas sûr. Mais il est possible qu'on passe à 1. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on passera jamais à 0. Pourquoi ? Parce que l'être humain est irremplaçable pour un certain nombre de choses. Il y a des choses pour lesquelles il peut se faire remplacer, et il y a des choses pour lesquelles il ne peut pas se faire remplacer. Et en particulier, c'est l'imprévu. Il y a des situations, et ça, on en discute avec l'Académie. J'ai le privilège d'être à l'Académie de l'air et de l'espace. Nous sommes convaincus que la valeur humaine à bord sera toujours, toujours irremplaçable, parce que par définition, l'imprévu n'est pas prévisible. Par définition. Ah oui, j'y avais pas pensé. Eh bien oui, mais justement, c'est la définition de l'imprévu. Et par définition, il y aura de l'imprévu. Et donc, on n'aura jamais la même fiabilité avec un système où il n'y aura pas l'homme à bord. Donc oui, il y aura un pilote au minimum. Peut-être 2, je ne sais pas. Mais il y en aura au moins 1. Ça, c'est sûr et certain. Et puis de l'équipage, évidemment, ne serait-ce que pour aller au bar, ne serait-ce que pour aller danser, ne serait-ce que pour... voilà, évidemment. Comme sur les bateaux de croisière, en fin de compte. Vous imaginez un bateau de croisière où il n'y ait personne à bord? Franchement, attendez, mais essayons de faire un peu de fiction, là. Non, mais vous rigolez? Mais franchement, c'est se moquer du monde. Là, je vous mène un peu en bateau, là, mais... C'était facile, celle-là.
Très bien. Bah, merci en tout cas, Yves, d'avoir été avec nous sur ce plateau.
Merci à Aeroscopia de m'avoir invité.
En direct d'Aeroscopia, donc, pour nous parler de l'aile volante à hydrogène. Merci encore.
Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors série. Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu de nous parler de leurs travaux qui les tiennent très à cœur et qui contribuent à forger ce que sera l'aviation à l'avenir. Un très grand merci également au musée Aeroscopia à Blagnac. C'est toujours un immense plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés du musée qui nous a accueillis et je t'invite fortement à aller y faire un tour si d'aventure tu passes en région toulousaine. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Tipeee qui nous permettent de continuer à pouvoir consacrer du temps à l'expérience Shiban. Voilà, à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, bon vol pour les plus chanceux et en toute sécurité bien évidemment.